Chalim était compté. Bonjour à toutes et à tous. Retrouvons notre fameux abbé de Chalim, Jacques de Thérines. Alors je vous rappelle que la dernière fois, on l'avait quitté avec de nouveau la remise en cause de l'exemption. Et il croyait, je pense, qu'il en avait terminé avec ce problème. Je vous rappelle que l'exemption, c'est le fait qu'un certain nombre d'ordres réguliers, c'est-à-dire qui suivent une règle, n'ont pas à payer des impôts au roi pour aller très vite. C'est un peu plus complexe, mais bon, en gros, ça revient à cela. Et donc, Jacques de Thérines pensant en avoir terminé, mais changement de pape, et donc changement de gouvernement. Et on tombe sur un pape, lui, qui est de nouveau beaucoup plus sévère par rapport au droit de Rome et, d'une façon générale, au droit des évêques. N'oublions pas que lui-même est l'évêque de Rome, le successeur, nous dit-on, de Saint-Pierre. Donc, il va demander de nouveau à Jacques de Thérines de justifier le fait que les cisterciens méritent d'être exemptés de ces impôts. Mais il y a même une petite menace qui va avec, puisqu'il dit en quelque sorte, si vous n'arrivez pas à me persuader, eh bien, tant pis. Hein. Seuls les évêques étant en mesure de redresser la discipline et donner des ordres dans leur diocèse, eh bien, les ordres devront, exemptés ou pas, devront leur obéir. Inutile de vous dire que les choses ne vont pas forcément satisfaire Jacques de Thérines. En plus, il demande aux cisterciens, histoire de les mettre un peu au pied du mur, un peu plus en quelque sorte, est-ce que vous êtes prêts à subvenir à une nouvelle croisade? On n'avait pas la première, je vous rappelle. Voilà. Donc, la question est posée à l'abbé de Pontigny. Et à ce moment-là, Jacques était toujours abbé de Chaly, et c'est lui, on voit bien là, qui joue un rôle essentiel hein, dans l'anticercien, qui va être chargé de répondre. Alors pour les exemptions, il était difficile à Jacques d'apporter de nouveaux arguments, parce que le pape, celui qui est actuellement sur le trône de Saint-Pierre, il connaissait déjà les arguments de Jacques de Thérines, puisqu'il était au ce fameux concile de Vienne, où on en a longuement parlé. Alors là, on pense que pour emporter le morceau, comme on dirait vulgairement, Jacques va user de la plus grande flatterie envers le souverain pontife. Beaucoup d'hommes aiment ça aussi, même s'ils sont papes. Hein. Il ajoutait que poser la question des exemptions, finalement, c'était mettre en doute l'autorité du pape, puisque le pape supervisait l'ordre, les ordres réguliers, l'anticercien. Donc on ne pouvait pas effectivement mettre en cause ces exemptions. Il était impossible aux ordres d'exempter de tomber dans l'erreur, puisque le pontife les contrôlait. On peut penser que ces arguments ont suffi. Deuxième question, n'oubliez pas, le pape lui demandait non seulement participer à une croisade, et j'ai oublié de le dire, de le préciser, dans un premier temps, il lui demandait « Mais au fait, vous les cisterciens, vous êtes sûrs que vous vivez dans la règle, que tout est parfait? N'y a-t-il pas quelque abus à réformer ?» Bon, c'était mettre le doute donc sur la discipline hein, qui régnait à l'intérieur des abbayes. Bon, je ne vais pas répondre sur le fond. Cette discipline, je doute qu'elle soit évidemment à la suite des volontés de Saint-Bernard. Ça avait belle durée que la vie à l'intérieur des abbayes avait connu de profondes modifications. Mais Jacques de Thérines va quand même rappeler que l'ordre, lui aussi, il le rappelle, est totalement soumis au souverain pontife et que s'en prendre aux cisterciens, c'est donc là aussi, c'est futé quand même, s'attaquer au pape lui-même. Et il fait parvenir au pape la règle de Saint-Benoît, qui est fondatrice hein, de son ordre, pas seulement des cisterciens d'ailleurs, la charte de charité, la carta caritatis, comme on dit en latin, qui organise le gouvernement de l'ordre, et aussi les anciens us de l'ordre, les coutumes de l'ordre, la façon dont on procédait aux visites annuelles. Il va lui rappeler la constitution de Clément IV, et enfin, elle va lui faire passer les définitions du chapitre général. Hein, je vous rappelle, le chapitre général, c'est cette organisation qui réunit l'ensemble des abbés et qui dirige, on peut dire, l'ordre cistercien gallican, c'est-à-dire qui se trouve en France au moins. C'est une instance suprême. Et que va-t-il lui dire? Alors, il va lui rappeler simplement les règles. Par exemple.
Tout manquement au triple vœu pauvreté, chasteté, obéissance entraîne des peines sévères. La clôture et les habitudes de frugalité contribuent à assurer l'observation de la règle. Si la boisson et la nourriture sont parcimonieusement mesurées, ce n'est pas par besoin d'économie que justifie la misère du temps, mais pour dompter la chair et fortifier l'esprit. Point de viande en dehors de l'infirmerie. Toutefois, un régime spécial est concédé aux religieux malades ou d'un tempérament faible, quel que soit le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie monacale. Méditation, lecture, prière, célébration très solennelle de l'office divin, parfois travail manuel, voilà qui suffit à bannir l'oisiveté du couvent. Les frères se servent les uns les autres, réservent tout ce dont ils se privent aux étrangers et aux pauvres. Il faut voir là une des raisons pour lesquelles Grégoire X avait dispensé les cisterciens du paiement des décimes et autres taxes extraordinaires.
Alors vous voyez là la géniosité, on peut le dire, du raisonnement de Jacques, qui va de nouveau revenir donc non seulement sur le fait que les moines sont vraiment exemplaires, encore que les moines sont des hommes, donc ils sont peccables, c'est-à-dire ils peuvent commettre des péchés. Mais ça, c'est pas grave, dit Deutérine un peu plus loin. Il dit les abbés les confessent au moins une fois par semaine. Et chaque prophète, c'est-à-dire chaque moine de cœur, fait au moins une confession complète à son abbé une fois par an. Et il va aussi replacer, bien sûr, encore une fois, l'exemption dans sa réponse. Chaque abbé, je vous rappelle, a ses chapitres quotidiens, ses visites annuelles. Même sitôt, alors c'est réciproque, hein, ils se visitent, si j'ose dire, les uns les autres, et même sitôt qu'ils se trouvent en haut de la pyramide, est visité tous les ans par les abbés des quatre filles de sitôt. Le chapitre général, réuni annuellement, est chargé lui aussi de réprimer les abus, de trancher entre les difficultés qui règnent au sein d'abbayes. Le pape suivant, Alexandre IV, va défendre les cisterciens. Hein. Et on va dire que ça va leur éviter d'en appeler au tribunal, sauf à celui du Saint-Siège. Vous remarquez que Jacques de Théry ne fait que peu de références au travail manuel. Il ne fait aucune référence aux pénitences même. Alors est-ce que tous les moines blancs étaient à l'abri du péché ? Jacques répondait en citant Jean, rapportant que si tous les hommes péchaient, les cisterciens étaient les plus attentifs à ne pas tomber dans le péché et de développer la pratique de la confession, etc., tel que nous venons d'en parler. La vraie réforme, disait-il, c'était de perfectionner le système de l'exemption et non pas de le faire disparaître. Troisième question, est-ce que l'ordre était prêt à fournir quelques subsides en vue de la croisade en Terre Sainte. Alors, on a quelques documents quand même là-dessus, à propos de la réponse de Jacques, mais surtout aussi de la guerre, parce qu'il s'agit aussi des dépenses liées de façon générale à la guerre. Cette guerre fut-elle une croisade ? Et pour cette question, concernant le financement d'une croisade, Jacques révèle la situation financière lamentable dans laquelle se trouvent les abbayes. Il estime les dettes de l'ordre à 500 000 livres tournois. Et la cause essentielle de ces déficits réside dans les guerres comme celle de Gascogne, pour lesquelles les cisterciens avaient été obligés de fournir des fonds, 60 000 livres au départ, mais avec des intérêts qui bientôt font 100 000 livres. Alors évidemment, ces chiffres nous étonnent un peu, ils sont énormes. On se demande de temps en temps s'il n'y a pas eu des erreurs de zéro, on reviendra là-dessus. Mais en tous les cas, ça sera efficace quant à l'argumentation que Jacques de Thérine va délivrer à son pape, en quelque sorte. Plus tard, lors des guerres de Flandre, dit-il, les gens du roi avaient saisi les chevaux, les bestiaux, des récoltes, et ils ne laissaient que de faibles ressources aux moines. Alors, faute d'animaux, les terrains étaient restés en friche, hein, vous imaginez donc la cascade. Épizootie, tiens, une épidémie, mais là pour les animaux, hein, c'est ça l'épizootie, et stérilité des terres, de la vigne, qui va être continue, et puis le mauvais temps aussi, n'oublions pas, pendant presque 7 années. Hein, la disette ne faisait qu'accroître le nombre de malheureux. Donc, il fallait à ce moment-là que l'abbaye reçoive, au nom de l'hospitalité, de plus en plus de pauvres. Donc, ça lui coûtait beaucoup plus cher. Et il disait, les cisterciens donnent 3-4 fois plus que les autres ordres. Il se plaignait aussi des vexations dont les moines avaient à se plaindre des seigneurs de moindre importance. Et c'est vrai que pour des droits de chasse, de bois, etc., très souvent, on voit des procès engagés entre les moines et les seigneurs voisins. Disons plutôt les petits seigneurs voisins. Il souligne aussi que s'ils étaient ou s'ils avaient été exemptés de la décime, alors ça c'est un impôt un peu spécial, ils auraient pu apporter une natte pour la croisade. Mais les statuts de l'ordre disent que chaque abbaye est indépendante et que l'abbé de Cîteaux ne pouvait décider sans le consentement des différents abbés, sans la permission du chef-titre général. En gros, il dit « moi, je ne peux pas répondre hein. ». Et il dit « même si l'ordre se mettait à vendre ses immeubles, donc ses maisons, hein, vu les circonstances économiques, il ne pourrait être vendu qu'à moitié prix ». Et en plus, imaginez les cisterciens vendre de l'immobilier, une telle opération ne pouvait que mécontenter les fondateurs, tarirait la source des aumônes, diminuerait le nombre de religieux, amoindrirait le culte, réduirait la somme des prières. Et tout cela est au moins aussi utile que des subsides pour vaincre les ennemis de la croix. Si la guerre cessait, si toutes les levées des décimes et des oppressions prenaient fin, alors vous trouveriez toujours nos religieux prêts à se conformer à votre bon plaisir. Il ajoutait que les sommes versées aux cardinaux pour assurer la protection de l'ordre, les réquisitions lors de la guerre, les fonds spéciaux lors du concile, avaient coûté aussi énormément d'argent. De nombreuses abbayes, et ça, on pense que c'est effectivement, on est dans la réalité, des abbayes comme Clairvaux et Vaucelles, que vous connaissez peut-être, hein, pas loin d'ici, oui, là encore, étaient criblées de dettes. Et que certaines, donc, se sont mises à mettre en fermage leurs propriétés. Vous voyez, on est là devant une indication que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ça n'est pas le manque de convers qui incline Jacques à mettre en fermage les terres, c'est bien la crise économique. Il avait d'ailleurs fait à Chaly. Et Jacques de préciser que certains moines quittaient même leur abbaye, parce qu'en plus, avec la guerre, il y avait le danger physique. Donc, ils préféraient se réfugier dans des abbayes où ils étaient moins en danger. Malgré toutes ces difficultés, est-ce que l'on peut croire la présentation de Jacques de Thérines à propos des finances cisterciennes? On n'a pas les moyens, évidemment, de vérifier facilement. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les comptes ne sont pas rigoureux. Ils n'avaient pas un tableau Excel dans les abbayes. Et les erreurs sur les décimales que j'évoquais tout à l'heure sont souvent nombreuses. Est-ce qu'il n'a pas augmenté, évidemment? Est-ce qu'il n'en a pas rajouté dans la douleur, en quelque sorte, pour éviter d'être de nouveau taxé? C'est probable. Mais parler de la rapacité des barons locaux, là, on pense qu'effectivement, vu le nombre de réclamations auxquelles on peut assister, est tout à fait dans la vérité. Il n'en demande pas moins au pape la possibilité de vendre des propriétés. Ça veut dire que quand même, la crise est certaine. Alors évidemment, là, on est loin de Saint-Bernard, parce que Saint-Bernard disait que les propriétés des cisterciens étaient d'abord la propriété des domaines cisterciens était d'abord la propriété de la Vierge Marie, pour qui le pape montrait une grande dévotion, quand même, il insiste, donc là aussi. Alors, faut-il attendre des jours meilleurs? Quelle qu'en soit la raison, en tous les cas, le pape va abandonner ses intentions premières et, ouf, pour Jacques de Thérines, va préserver les privilèges des cisterciens. Donc Jacques de Thérines, comme on le disait lors de la précédente émission, vient d'être nommé, et c'est vraiment un honneur, hein, abbé de Pontigny. Et à Pontigny, quand on regarde le cartunnel de Pontigny, on s'aperçoit qu'il va refaire le même travail qu'il avait fait à Chaly, c'est-à-dire il va regrouper les propriétés, il va mettre en fermage, il va essayer de trouver la meilleure rentabilité en fonction, le mot n'existe pas, mais en fonction de ce que nous appelons, nous, le marché. Hein. Mmh. Donc, j'avais déjà parlé de cela au siècle précédent. Les cisterciens ne sont pas des gens stupides. Ils se rendent très bien compte que si le marché de la laine est en train de s'effondrer, ben, faut faire autre chose. On fait de la vigne. Mmh. Si la vente du vin périclite, on va faire de la céréale, etc. Et là encore, Jacques de Thérines va adopter une telle attitude. Un nouveau problème va quand même éclater assez rapidement. Dans l'ordre mendiant, qui était assez proche quand même des cisterciens, cet ordre mendiant qu'on nomme les franciscains. Ils font vœu de pauvreté, ils ne sont pas dans une abbaye, hein, ils vivent de l'aumône. Et à l'intérieur des franciscains, il va se développer, ce qui arrive souvent à l'intérieur des associations humaines, il va y avoir des gens qui sont partis dans la négociation, il va y avoir des centristes en quelque sorte, mais il va y avoir des extrémistes là aussi. Ceux qui disent, ben nous le pape on ne connaît pas, nous on n'a qu'un seul chef, c'est le ministre général, qui à l'époque s'appelle Michel de Cézanne. Si je donne son nom, c'est parce qu'il apparaît dans Le Nom de la Rose, hein, d'Umberto Eco. Donc l'ordre franciscain va bientôt se déchirer par des querelles internes. Et les querelles sont parfois assez ahurissantes. Est-ce que le moine peut posséder la tunique qu'il revêt enfin bref, ça c'est plutôt du détail. Mais franchement, l'opposition a été beaucoup plus profonde. Et Clément V, qui avait essayé d'imposer l'obéissance à tous, hein, va tomber sur une grande difficulté. Car les extrémistes, je les appellerais comme ça, alors on les appelle les franciscains spirituels en France, ou les fratelli en Italie, quittèrent plus ou moins leur couvent, en quelque sorte, l'endroit où ils se réunissaient. Et le pape décide à ce moment-là de convoquer une commission de théologiens qui doit statuer sur l'hérésie des franciscains spirituels. Et là, on va retrouver encore une fois notre abbé, hein, devenu abbé de Chaly, Jacques de Thérines, en compagnie de Michel de Cézanne, donc, qui dirige l'ordre des franciscains, trois frères franciscains ou mendiants, un bénédictin, six évêques et un cardinal. Ils sont là, Jacques est là comme juge, hein, mais on ne peut pas dire qu'il rencontre beaucoup un bon accueil, car il est certes considéré comme un spécialiste de la question de la querelle entre les franciscains, mais n'oublions pas qu'en même temps, il se doit d'être le défenseur exemplaire du pouvoir du pape et de l'obéissance au général. Il le réclame, rappelez-vous, en disant « nous obéissons au pape, donc s'il y a un problème qui nous concerne, c'est au pape de décider bon. ». Il avait une dette aussi vis-à-vis du pape qui avait renoncé à la suppression des exemptions. Alors les choses vont, les accusations d'hérésie vont être de nouveau remises à l'ordre du jour. Les accusés affirment que la règle de saint François est au-dessus de tout le monde, même de toute autorité ecclésiastique, et la condamnation comme hérétique va être unanime. Et donc Jacques là va être du côté, je dirais pas des inquisiteurs, mais de ceux qui vont quand même condamner toute opposition, toute difficulté sur le fond dans la règle franciscaine. Alors c'est vrai aussi que les choses vont s'adoucir, puisque seulement 5 moines franciscains, les fratelli, vont persister et aller jusqu'à la mort. Les autres vont tous se rétracter. Certains juste avant l'exécution, on peut les comprendre. Hein. Non, j'aurais pas donné mon avis, mais c'est vrai que avoir tous ces bûchers qui s'allument un peu partout, on est quand même assez effrayé. Alors là, la tradition a respecté, hein. Le jugement a été effectivement porté par un tribunal religieux, mais comme les religieux ne peuvent pas mettre à mort un des leurs, évidemment, on remet donc les hérétiques entre les mains du bras séculier, et ces moines vont être brûlés en place publique à Marseille. Après cette intervention, Jacques de Thérines va retourner à Pontigny. Il va s'opposer d'ailleurs à l'archevêque d'Auxerre. Vous voyez, ça continue avec les évêques. Hein. Ceci dit, il ne va pas obtenir gain de cause. Hein. C'est peut-être une des rares défaites de Jacques. Malgré ça, on continue à solliciter son conseil. Alors, je passe sur les détails, mais d'une façon générale, son aura est toujours intacte. Hein. Alors bien sûr, le problème de la croisade reste en sa mémoire et il se dit qu'après tout, c'est peut-être une façon de détourner, comme ce fut le cas pour les premières croisades, hein, la violence des jeunes gens, mais aussi des agents royaux qui se déchaînaient contre les juifs et les lépreux. Hein, ils se livraient, n'oubliez pas, à tout un somme d'atrocités, hein, comme celles qu'ils commettront contre les Templiers. Et Jacques se dit que c'était une façon de détourner ces violents assoiffés de sang et de les convier à participer à la croisade. Enfin bref, les choses s'arrêtent là, puisque Jacques va mourir, meurt, en octobre 1321. Alors, on ne connaîtra jamais son avis circonstancié à propos de la croisade. On sait qu'il a été enterré selon les coutumes cisterciennes. Et récemment, d'ailleurs, une petite information, à la suite de travaux de restauration dans l'église de Pontigny, hein, on a modifié un escalier, on a retourné une marche et derrière, on a vu une partie d'un texte qui concernait l'inhumation de Jacques de Thérines. Vous voyez, il y a des trouvailles comme ça. Bon, ça ne va pas révolutionner l'histoire de France, mais il y a toujours une liaison, évidemment, entre le travail des archéologues et celui des historiens. On va lire maintenant ce qui est noté sur le tombeau de Jacques de Thérines.
Son épitaphe le déclarait comme un très grand professeur, d'une sainteté comparable à celle de saint Edmond, pur et sans concupiscence aucune, père de cette église et source de théologie, modèle de la vie pieuse, fervent adorateur de Marie, second Jacob, conduisant jusqu'aux étoiles ses désirs spirituels, distingué interprète des deux testaments, mort en 1321 pendant les heures lumineuses de Saint-Luc, il quittait cette lumière. Laissons-le reposer, ô Christ. Comme son maître Saint-Bernard, Jacques avait probablement passé plus de temps qu'il ne le souhaitait hors du cloître.
Voilà. Alors c'est ainsi qu'on va terminer notre histoire concernant l'œuvre de Jacques de Thérines. Ce qui est assez curieux, c'est que cette histoire, après avoir été diffusée en Italie comme en Allemagne, bon, l'Italie de l'époque, l'Allemagne de l'époque, ce ne sont pas les frontières que nous connaissons actuellement, mais d'une façon générale, son œuvre va bientôt sombrer dans l'oubli depuis pour de nombreux siècles, et on est content aujourd'hui, évidemment, de parler de cet homme qui est un homme de mesure, hein, qui a toujours raisonné et toujours essayé de trouver les solutions les plus humaines qui pourraient satisfaire, évidemment, une majorité des gens qui vivaient à son époque. Alors, pour la petite histoire, si... Le nouveau roi Philippe V le Long, hein, le fameux débonnaire, un an plus tard, s'est quand même rendu à l'abbaye de Chaly. Il fut reçu avec beaucoup d'honneur. Hein. C'est peut-être l'abbé de Chaly qui va engager par la suite Philippe V le Long à aller ensuite en pèlerinage à Pontigny.